Yani,
hamjambo kina mama wote wa
Mbalma Muso, ani sorama.
Magande wetu.
Bonjour.
Hello to women the world over.
Salama nareo.
Olia, muchacho.
Puntenga parbafan.
Hola a todas.
Femme à la une.
Au mois d'avril 92 à Montréal au Canada, se tenait le festival du cinéma africain et créole. La Togolaise Anne-Laure Folly remporte dans ce cadre le prix Image de femme décerné pour la toute première fois pour son film Le Gardien des Forces. L'Afrique doit se raconter par elle-même, soutient Anne-Laure Folly. Elle doit se dire, exister par elle-même, qu'on cesse de la montrer, que les Africains se situent par rapport à ce qu'ils voient d'eux-mêmes. C'est son exigence d'Africaine. Elle croit, et nous croyons avec elle, à l'importance de cette démarche. Trouver le sens, dit-elle encore, elle a choisi pour cela le cinéma. Trouver le sens dans le traitement de la mort pour aider les vivants. Vie et mort, une connaissance que des initiés livrent devant la caméra d'Anne-Laure Folly. Les maîtres du mystère parlent et donnent d'eux une autre image, celle de penseurs de vie, éloignant ainsi peut-être une autre image, celle de gardien d'un monde occulte, utilisé parfois abusivement.
Je suis togolaise, juriste, et j'ai fait récemment un film. Lors d'une réunion d'un séminaire au Togo, j'ai assisté à la mort de ma grand-mère et j'ai été très impressionnée par le traitement de la mort. Et je me souviens que dans l'avion, je me suis dit, il ne faut pas que ce que j'ai vu se perde. Je voudrais laisser des traces, faire un film sur la façon dont l'Afrique traite la mort. Pas à travers les funérailles auxquelles j'avais assisté, qui étaient tout à fait conventionnelles, mais à travers les thèmes les plus traditionnels que draine la liturgie africaine de la mort. Alors je suis arrivée à Paris avec cette idée. Elle était tellement forte que 3 mois après, j'avais l'équipe, l'argent et la volonté de le faire. Je suis partie, je suis revenue, le film était là. C'est une idée très forte qui est née juste après une mort. Je suis passée d'un état d'incertitude et même de délaissement du cinéma. Je pensais que cette activité avait été tout à fait fortuite et ne me classait pas au niveau des cinéastes. J'avais des choses à dire, j'en ai toujours, et je me suis dit que j'allais continuer par l'écriture. En recevant ce prix, ça me conforte un peu dans l'espoir que je peux dire aussi par les images, et que l'image étant un média très fort au niveau du continent, qui peut atteindre des millions de personnes, c'est peut-être pour moi plus simple et plus facile pour transmettre ce que je voudrais dire. Donc ça me permet peut-être de me donner le courage de continuer, que je n'aurais pas eu si je n'avais pas été récompensée.
Le vaudou, c'est la force. Le pain était grand féticheur. Au Togo, comme au Ghana, au Bénin, au Nigeria, partout il est connu. Mon travail, c'est l'imprimerie, d'abord. L'imprimerie, je n'avais pas choisi quand j'étais au village. En cours moyen, première année, mon père m'a dit de cesser l'école pour rester à côté de lui, apprendre à guérir les gens. J'ai refusé et j'ai quitté le village comme ça.
Le gardien des forces, c'est l'histoire d'un féticheur vaudou qui, au cours d'une cérémonie qui n'a lieu que tous les 3 ans, qui est très rare, et réservée simplement aux initiés, nous parle de ce qu'il fait de l'intérieur. Il nous explique ce qu'est la force, ce qu'est le vaudou. Il nous explique aussi ce que sont pour lui les esprits. Quelle est la différence entre un féticheur et un sorcier? Quel est l'usage qu'il fait des plantes? Quels sont les pouvoirs qu'il a de guérison? Le film s'achève lorsque l'on lui demande quels sont les pouvoirs que tous les féticheurs rêvent d'avoir. Et là, nous ne le saurons jamais parce qu'il nous dira que l'on va trop loin.
Et est-ce que vous pouvez nous décrire une scène forte du film? Parce que vous avez dit qu'il y a beaucoup de sang dans ce film.
Je crois qu'il y a du sang parce que Le vaudou est, est une religion qui, en général, est basée sur la force vitale qui s'échappe du corps à la mort. La force de l'esprit descend sur les hommes parce qu'elle est appelée. Et elle est appelée parce qu'on lui propose une énergie vitale. Et l'énergie vitale, pour la trouver, on la prend sur le corps d'animaux. Ça peut paraître tout à fait sanglant et barbare. On oublie souvent que la religion catholique est basée sur un sacrifice humain qui est répété tous les jours par les catholiques et toutes les semaines à l'église, puisqu'on mange la chair et le sang du Christ qui a été tué par son Père. Je crois que toutes les religions et toutes les liturgies savent que l'initiation passe par la mort.
Et dans votre film, est-ce qu'il y a beaucoup de sacrifices d'animaux? On voit le féticheur en train de sacrifier des animaux. Et quel type d'animaux?
Il y a beaucoup de sacrifices parce que c'est une cérémonie très rare. On ne sacrifie en Afrique que des animaux de la vie commune et des animaux paisibles en général, c'est-à-dire des chèvres, des poulets, que l'on consomme ensuite. Ce n'est pas un carnage gratuit, mais ce sont des animaux qui n'ont aucune agressivité en eux, parce que le sacrifice sert à s'allier l'esprit et les esprits, et donc il faut des animaux doux. Il est très rare que l'on sacrifie des animaux sauvages. C'est des rites très très précis pour acquérir des pouvoirs très très précis. Et en général, c'est une utilisation de l'animal qui n'est plus courante de nos jours.
Il y a une force chez nous en Afrique ici. Alors, cette force-là nous aide dans quelques malheurs. Ça nous sauve des fois dans quelques malheurs. C'est pourquoi je peux dire que je crois.
Quel est le lien que tu fais entre la force,
oui, cœur,
et le Dieu que tu pries à l'église?
Oui. Bon. Chez le féticheur, sa force vient immédiatement et ses actions se concrétisent immédiatement, je peux dire. Bon. Disons chez Dieu, bon, Dieu peut faire passer sa force par quelqu'un qui viendra t'aider. Un autre jour, bien, je ne sais pas. Mais comme je vois sur place la force qu'exerce le féticheur.
J'ai cherché à travers un féticheur qui parle très bien le français, qui réduit donc la distance qu'il y a souvent entre le spectateur et celui qui a la connaissance, qui est africain, qui parle dans son dialecte, qui donc met non pas seulement une distance spectateur-image, mais une distance dans le temps, dans l'histoire. On croit qu'on est sur un autre monde quand on rentre dans la magie, etc. J'ai pris quelqu'un qui était tout à fait accessible et on a filmé de l'intérieur en respectant ce qu'il disait, en suivant ses explications, en exprimant tout ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'on a laissé parler celui qui d'habitude est l'observé. Et l'observé a dit ce qu'il voulait. Je prétends que quand on laisse à ceux qui ont la connaissance le pouvoir de dire ce qu'ils connaissent, ils disent toujours plus que si quelqu'un les interroge, quelqu'un qui vient d'ailleurs. Parce que celui qui vient d'ailleurs n'a pas la bonne question, donc on ne peut pas recevoir la bonne réponse.
Un lieu sacré.
Je peux dire que le lieu sacré, c'est là où les hommes sont enterrés. Ici où nous sommes maintenant, c'est un lieu sacré pour nous. Je dis ici parce que nous sommes au cimetière de la ville, du village. Voilà. Un lieu sacré, c'est là où les hommes sont enterrés.
Anne-Laure Folie, pourquoi vous avez intitulé votre film « Le gardien des forces » ?
Parce qu'en ésotérisme, en spiritualité, on dit souvent que quand on traverse le miroir, quand on commence à passer dans le domaine de ce qui n'est plus rationnel, il y a un gardien du seuil. Et c'est lui qui vous reçoit pour vous faire pénétrer dans l'autre monde. Et cet homme, je l'identifiais tout à fait à ce gardien du seuil. Et quand il nous a montré ce qu'il pouvait faire, quand il nous a expliqué comment il le faisait, quand il faisait habilement des relations entre ses pratiques et celles de la chrétienté, quand il nous expliquait que la façon dont Dieu soignait et dont lui soigne sont tout à fait identiques, puisqu'elles sont fondées sur le sang, le sacrifice, la puissance du Verbe, tout ce qu'il manie effectivement et quotidiennement, je me suis dit que c'était le gardien du seuil. Sauf que lui, il utilise les forces, alors je l'ai appelé le gardien des forces.
Et vous traitez d'un problème aussi, disons, qui touche pas mal l'Afrique, le vaudou. Et est-ce que c'est un problème important qui touche beaucoup le Togo ?
Je crois qu'il touche beaucoup l'Afrique en général. Il y a un pouvoir occulte. Il y a une émergence d'ailleurs du pouvoir occulte partout dans le monde. Je crois qu'il faut placer le film au niveau d'une globalité qui dépasse tout à fait le continent. L'occulte sert maintenant à beaucoup de choses. Il sert aussi aux politiques. On a vu dans beaucoup de pays des féticheurs devenir ministres des Finances, devenir se faire enlever parce qu'ils avaient des pouvoirs importants, ou se faire tuer parce qu'ils avaient donné des pouvoirs et qu'on ne voulait pas qu'ils en donnent à d'autres. Je voulais savoir ce qui fascinait tant le politique, quel était ce pouvoir qui fascine tellement le pouvoir politique. Et c'est un autre pouvoir, c'est un pouvoir réel, à travers celui qui possède ce pouvoir, j'ai voulu savoir jusqu'où on pouvait aller. Alors, devant les caméras, on a pu tuer à la voix. J'ai filmé comment on tue à la voix, encore en Afrique. Et ça, c'est un pouvoir réel.
Le cri qui tue, qu'est-ce que c'est ?
Ça, c'est quelque chose qui existe dans toutes les civilisations, mais qui est perdu. Quand on relit la Bible, il est dit qu'au début était le Verbe. Et dans toutes les religions, le pouvoir du mot, du Verbe est important. Il y a des gens en Afrique qui connaissent le pouvoir que certains mots ont parce qu'ils émettent une vibration, ils sont en contact avec des entités vivantes, qui ne sont jamais utilisées, qui ne sont jamais appelées parce qu'elles sont très violentes, et ces entités sont liées à des mots. Et quand on utilise le mot, l'entité agit, l'esprit agit en même temps. Et il y a certains mots qui, en effet, détruisent le métabolisme de la personne sur qui il est lancé. C'est pour ça que dans le film, on utilise ces mots sur des animaux. Et ces animaux meurent sans que personne ne les touche, par asphyxie d'ailleurs et en plein air. C'est très impressionnant, mais c'est fait dans cette partie du Togo par les féticheurs qui pratiquent ce rite en priant un certain dieu, un certain esprit. Et c'est ce que nous avons filmé, sans trucage d'ailleurs. Le film est passé dans la plupart des grands festivals ethnologiques et personne n'a contesté d'ailleurs la véracité des faits. C'est simplement qu'ils n'ont jamais été filmés parce que c'est des choses qui sont pas très courantes et surtout qui sont très fermées, réservées uniquement aux initiés. Donc c'était la première fois.
Le Verbe agit. Le poulet meurt en présentant des signes d'asphyxie. Le dieu capture directement sa proie en tuant le poulet sans intermédiaire. Cette mort prouve que le dieu est présent.
Vous apportez quelque chose de nouveau par rapport à tout ce qu'on sait plus ou moins sur le vaudou ?
D'abord, j'ai voulu montrer que le vaudou était africain. Il a traversé la mer pour aller dans les Caraïbes, mais j'ai voulu montrer ce qu'était le pouvoir liturgique essentiel, sans syncrétisme chrétien, etc. Je veux dire, à l'origine. Je voulais montrer qu'il y a une très grande connaissance en Afrique. Qui détient la connaissance? Comment elle se répand ou ne se répand pas à travers les adeptes? Jusqu'où on peut aller? Et peut-être jusqu'où il ne faudrait pas aller? Et je n'ai pas de critique à amener. Les seuls peut-être allusions qui sont faites par des enfants, c'est-à-dire d'autres générations qui connaissent la pratique et qui eux-mêmes pensent qu'il y a des stades à ne pas dépasser. C'est un voyage à travers un monde qu'on ne connaît pas ou qu'on ne veut pas dire, parce que l'Afrique se raconte peu. Et je pense que c'est dommage, parce que pour participer à ce qui se passe dans le monde, il faut exister, c'est-à-dire se dire soi-même, participer à la civilisation avec ce que l'on apporte de spécifique soi-même.
Qu'est-ce que vous avez voulu montrer à travers ce film ?
Je crois que l'on sous-estime beaucoup la culture et la religion africaine. Je crois qu'on la sous-estime parce qu'on n'a pas pris conscience encore de l'impact qu'elle a eu dans d'autres régions du monde. J'ai eu le bonheur d'apprendre récemment que le Bénin allait faire un grand festival de culture vaudou, parce que le Bénin pense, à raison d'ailleurs, qu'il est important de souligner l'apport que cette culture a eu aux Amériques, surtout dans des pays comme le Brésil, etc., où cette culture s'est répandue sous d'autres formes, même aux Caraïbes. Je crois que toutes les races ont des religions fortes et que la chance de l'Afrique, c'est d'avoir une religion qui est encore vivante. C'est-à-dire que même si les gens pratiquent des religions exportées, ils sont encore culturellement très liés à leurs valeurs sacrées. Et ce que je souhaiterais, c'est que l'on ne confonde pas modernité et développement. Et si l'Afrique veut le développement, elle peut aussi conserver une part de sa tradition. Et sa tradition, c'est à côté du monde profane que l'on vit tous les jours, garder les valeurs du sacré.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que le voodoo est souvent perçu comme quelque chose de négatif ?
Je crois que tout système a ses perversions, que toute religion connaît son intégrisme, que la valeur d'une chose dépend de l'usage que l'on en fait. Je crois aussi que la connaissance profonde d'une religion permet à l'homme d'acquérir une certaine sagesse, et que l'acquisition de pouvoirs personnels n'entraîne pas nécessairement qu'on les utilise contre l'individu. Il y a eu souvent des aberrations, mais ça, c'est pas dans l'essence d'une religion, et d'une religion africaine encore moins, puisque l'Afrique est basée sur le respect de la vie. Je crois que c'est des débordements qui sont personnels, et surtout, avant, cette religion et cette connaissance étaient partagées par beaucoup. Et donc, il y avait un modus vivendi dans les sociétés. Maintenant, la captation d'une connaissance par uniquement certaines personnes fait qu'il y a, comme dans tout système où certaines personnes seulement détiennent un pouvoir, des exagérations, je le regrette, mais je crois qu'avant tout, le vaudou, c'est une religion, comme toute autre religion, qui mérite beaucoup d'intérêt.
Il y a d'autres scènes fortes dans votre film ?
Je crois que le regard que l'on porte sur ce film en disant des scènes fortes, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir en Occident. J'ai présenté en Afrique, le sang ne gêne pas l'Africain en général. Je crois qu'il faut différencier le sang et la violence. Ce qui est indéniable en tous les cas dans ce film, ce que je crois, c'est qu'une partie de ce pouvoir est effectif et qu'il peut soigner. Simplement, et qu'on ne tue jamais en pure perte en Afrique. Quand on tue un poulet pour soigner une personne, je trouve ça très bien.
Est-ce qu'il y avait des scènes particulières que vous aviez envie de tourner, ou c'est venu progressivement en étant en contact de cet homme, le gardien des forces ?
Je crois que au-delà des scènes de transe, au-delà des scènes de sacrifice, ce que j'ai eu le plus plaisir à tourner, c'est les entretiens et les interviews avec ces personnes qui participaient, qui étaient là comme ça, parce qu'elles étaient initiées et que je n'ai pas choisi, en leur posant des questions qui, à mon avis, étaient très difficiles à aborder. J'ai constaté l'aisance avec laquelle elles maniaient des concepts d'abstraction et de modernité, et que des gens qui sont souvent illettrés ou analphabètes ne sont loin d'être bêtes, et je dirais même sont très, très intelligents. Et ce qui m'a le plus séduit, c'est la facilité et la dextérité à penser. Et j'ai été très fière d'être africaine à ce moment-là. Il y a une grande dichotomie entre ce que je fais et ce que je pense, ce que je rêve avec les images et ce que je fais dans la réalité. Mais c'est pas grave.
Et vous ne pensez pas que, disons, maintenant que vous avez remporté un prix, vous serez obligé peut-être de faire un choix par rapport à cet art qui, je suppose, demande beaucoup de temps.
Oui, je souhaiterais continuer à faire des films, et même si je dois faire un choix. Il est important, comme je vous l'ai dit, de communiquer ce que l'on est à l'extérieur, autant pour nous que pour les autres. On peut, à travers l'image, en Afrique, montrer que l'on a une spécificité qui n'a jamais été montrée, appréciée et connue, et que c'est une porte qui peut s'ouvrir. Le cinéma peut permettre à l'Afrique d'exister aussi dans des terrains auxquels elle n'a pas existé par elle-même. On l'a montrée, mais elle ne s'est pas imposée. L'image peut être un moteur pédagogique important pour les populations et peut-être remplacer le livre ou d'autres choses, parce qu'il permet d'atteindre un large public, ce que le livre encore en Afrique ne fait pas. Enfin, je crois qu'une société prend conscience d'elle-même, comme nous-mêmes, par reflet dans un miroir. Que le film, l'image, permet à une société de mieux se comprendre. Quand récemment on parlait de l'Europe, Wim Wenders, qui est un grand cinéaste allemand, disait « Montrez à l'Europe des films européens et elle se fera ». Le problème avec l'Afrique, c'est que l'Afrique ne reçoit jamais sa propre image. Que la plupart des films qui sont diffusés en Afrique sont des films qui sont faits à l'extérieur, de kung-fu, des films occidentaux, et que l'homme africain, dans sa culture, ne se reconnaît pas sur l'image quand on lui présente Jeanne Moreau ou Roger Moore.
Mais à travers votre film, vous y arrivez finalement.
Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait de plus en plus de cinéastes qui puissent filmer l'Afrique et la présenter à elle-même, parce que les films soient bons ou mauvais, l'important, c'est que celui qui voit des images de l'Afrique réfléchisse dessus et se situe par rapport à ce qu'il voit. Et je crois que le film fait par des Africains pour des Africains permet à chaque Africain de savoir où il est et de se replacer dans le monde.
Quel genre de femme êtes-vous, Anne Lorfoli?
Oh là là, je suis une femme tout à fait banale. Je crois que j'ai beaucoup d'honneur et de chance de passer à votre émission, mais je crois que n'importe qui peut faire quelque chose. Du moment qu'on aime ça et que l'on pense qu'on a le droit de le faire, je veux dire que il faut pas être timide. Quand on porte une idée en soi, il faut la laisser vivre. Donc il faut la sortir. Et puis après, elle a sa vie propre, elle a du succès, elle n'en a pas, mais c'est autre chose. Mais essayer de sortir les choses de soi, c'est important.
Est-ce que ça vous a beaucoup apporté, cette expérience cinématographique?
Je crois que toute activité artistique, même faite au niveau individuel, permet à celui qui l'a fait d'évacuer toutes ses interrogations. Je crois que faire de la musique, de la peinture, n'importe quoi, de la poésie, ce que vous voulez, ça vous permet de mettre en forme tout ce qui est en vous émouvant et ça vous libère.
En dehors du cinéma, vous avez d'autres passions dans le domaine artistique ou autre ?
J'aime toutes les formes d'art, mais en tant que spectateur, en activité, je ne peux faire que du cinéma ou de la photo.
Quel genre de photos?
Je fais des photos, c'est un hobby pour moi. Personnellement, je n'oserais même pas vous montrer mes photos, mais j'aime beaucoup regarder à travers un appareil. Je trouve que l'on regarde autrement. J'aimerais, pour le prochain documentaire, traiter des femmes devant les changements politiques qui s'installent en Afrique. Peut-être des femmes et de la démocratie, mais avant tout, essayer de dire que les femmes ont un regard sur ce qui se passe partout sur le continent et que, à la différence du discours dominant qui traite de l'avenir à travers l'échéance politique, elles pensent que l'urgence se situe au niveau du développement. Elles pensent que ce qui est important, c'est que leurs filles ne soient pas soumises aux mêmes conditions de vie qu'elles l'ont été, que le changement passe par des améliorations qui sont moins coûteuses qu'on veut bien le dire, mais qui seraient déterminantes pour elles et surtout pour leurs propres filles, et qu'avant tout, l'éducation est une nécessité pour chacune d'entre nous.
Donc là, ça sera vraiment un regard de femme sur le cinéma.
Oui, et un regard des femmes qui peuvent appréhender l'ensemble des problèmes sociaux. Je ne crois pas que les femmes sont simplement conscientes de ce qui se passe au niveau de leur vécu quotidien, des problèmes matériels de la famille. Je crois que la désertification, elles la subissent. La démographie, le poids de la démographie et des familles, elles la subissent aussi d'une certaine manière parce qu'aucune femme ne veut que ses enfants meurent de faim. Elle préfère ne pas en avoir plutôt que les voir mourir de faim. Des choses comme ça.
Il y a très peu de femmes africaines dans le cinéma. Vous pensez que vous êtes quelque part un petit peu à l'avant-garde de cet art?
Je crois qu'il y a très peu de femmes dans le cinéma. Où qu'il soit, c'est pour ça qu'on arrive à faire simplement des festivals de femmes, parce qu'on veut les pousser. Je crois qu'en Afrique, c'est plus difficile encore à cause des moyens, mais je crois que mes consoeurs ont des idées fabuleuses. Je lis beaucoup tout ce que je peux sur la littérature, et quand je vois certaines femmes écrire, ça m'enchante, parce que je trouve que leurs idées sont très intéressantes.
Quelque part, ce prix Image de femme, ça ne vous contente pas justement dans un certain milieu, dans un milieu femme, alors que le cinéma, finalement, qu'on soit homme ou femme, c'est la même chose.
Vous avez raison, c'est une discrimination positive. On espérait qu'il n'y en ait plus et qu'un jour, on puisse avoir un prix parce que le film est simplement bon.
Femme à la une.
C'était Le Gardien des Forces, un film réalisé par Anne-Laure Folly. La mise en page est de Frédéric Leroux, la production de Annie-Paul Tourelle, mixage Émile Roucoz, au micro Sylvie Coffi. Au revoir.
Bonjour.
Olia,
bonsoir. Molweni Bafazi.
Ahlan wa sahlan bik. Atamanna lak naharan tayyib.
Mbote.
Jamangen mboloy. Jawal lan fulbe rewbe.
Mbola Sara.